Radio Kapi.
Le gouvernement congolais invité à concentrer son action sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais, c'est entre autres points évoqués dans les discours des présidents des deux chambres du Parlement hier à l'ouverture de la session parlementaire de mars, session essentiellement politique. La MONUSCO vole au secours des ex-combattants à Kalemie. Elle leur a remis hier des kits de réinsertion d'une valeur de 100 000 dollars. C'est pour rendre autonomes 200 bénéficiaires, dont 80 femmes vulnérables et 80 jeunes à risque. Et puis, l'invité de ce matin, Bakr Wali Ndiaye, chef de la délégation des experts de l'ONU sur la situation en RDC, délégation qui vient de boucler sa mission de 2 semaines au pays dans le cadre du processus de la mise en marche de la justice transitionnelle. Madame, Messieurs, bonjour. Fini les vacances. Les parlementaires ont repris hier le chemin de l'hémicycle du Palais du Peuple. Cette session de mars s'avère éminemment politique avec en priorité le contrôle parlementaire et le vote des lois urgentes sur notamment les réformes électorales, fiscales et d'investissement. Dans leur discours, les présidents des deux chambres du Parlement sont revenus à tour de rôle sur la nécessité pour le gouvernement de concentrer son action sur l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Préoccupé par la précarité des vies des Congolais, le président du Sénat insiste sur la nécessité de lutter contre la fraude fiscale, le coulage des recettes et la corruption afin de veiller à une répartition équitable des ressources de l'État. Modeste Baatilukwebo.
Le gouvernement devra absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Cela dans la perspective de la création des richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager.
Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale s'est engagé à programmer pour examen toutes les lois utiles pour des réformes urgentes comme la loi électorale, mais aussi un contrôle parlementaire systématique. Christophe Mboso.
Les honorables députés se sont montrés très critiques envers le bureau au sujet de leurs initiatives de contrôle parlementaire. Votre bureau veillera à la programmation chaque mercredi de vos initiatives de contrôle.
Notez qu'à l'Assemblée nationale, le siège du premier vice-président Jean-Marc Abound est resté vide, alors que la présidente honoraire de la Chambre, Jeannine Mabunda, a été présente pour la première fois dans la salle depuis sa destitution.
Modeste Baatilukwebo salue la dotation par le président de la République à l'inspection des finances publiques des moyens capables de l'aider dans le contrôle de la gestion des finances publiques. Au cours de son discours d'ouverture solennelle hier de la session de mars, le président du Sénat a encouragé le gouvernement à exécuter fidèlement le budget 2022 afin de matérialiser son programme d'action pour la période 2021-2023. Pour lui, la lutte contre la pauvreté et la souffrance de la population devrait être la priorité de l'action gouvernementale au cours de cet exercice budgétaire. On écoute Modeste Baatilukwebo.
J'exhorte le gouvernement à se pencher sur les mesures fiscales déjà définies afin d'atteindre ses objectifs. Pour éviter le paradoxe entre les mauvaises conditions de vie de la population et l'abondance des ressources dont regorge le pays, la lutte du gouvernement devra absolument privilégier l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, cela dans la perspective de la création des richesses plutôt que dans la gestion de la pauvreté. Le soutien au secteur productif s'impose par la contribution de l'État au financement des secteurs sociaux porteurs de croissance. L'orthodoxie financière doit être de stricte application en ce qui concerne les dépenses à engager. Je réitère mon encouragement à la lutte déjà entamée par l'Inspection générale des finances contre la mégestion et la corruption.
Pour sa part, le bureau de liaison avec le Parlement BLP-SENCO invite le Parlement à voter prioritairement la proposition de loi électorale afin de permettre au pays d'aller vers des élections crédibles, transparentes et inclusives en 2023. Réagissant au discours du président de l'Assemblée nationale, le directeur du BLP-SENCO estime que les parlementaires ne devraient plus faire ce que bon leur semble sans tenir compte des attentes de la population. Pour le responsable de cette cellule technique de la SENCO, la société civile devrait désormais participer activement aux plaidoyers parlementaires afin d'amener les élus à privilégier l'intérêt supérieur du peuple congolais. On écoute à ce sujet Maître Jean-Paul Moulianga.
Les élus sont là pour le peuple. Ils vont voter des lois, ils vont contrôler l'action de l'exécutif. Mais nous disons aussi qu'ils doivent faire participer leur mandat, eux ne sont que des mandataires, dans la mission de légiférer et de contrôler l'action de l'exécutif. C'est-à-dire que ce peuple va juste à travers les organisations à la base, qui sont ces peuples lui-même organisés autour de ses intérêts, va mettre une pression sur ses élus pour que ceux-ci prennent en compte les aspirations. Tous les deux présidents dans les deux chambres ont évoqué la cherté de la vie. Ils ont dit que leur mandat n'avait de sens que si ça produisait des effets positifs en termes de retombées dans les chefs de la population. Et nous sommes là pour justement, comme bureau de liaison avec les parlements, maintenir les ponts entre les élus et leurs électeurs, mais aussi comme service technique des plaidoyers parlementaires des évêques de la SENCO, leur fournir les éléments qui leur permettront d'élaborer des bons cahiers de charges.
Toujours en marge de cette rentrée parlementaire, le député de l'ECID, Ados Ndombassi, dénonce ce qu'il qualifie d'institutionnalisation de la corruption au sein de l'Assemblée nationale. Ce député de la Mouka Pro, Martin Fayulu, fait état de plusieurs centaines de millions de dollars des contribuables partagés, selon lui, aux députés en raison de 1 000 dollars par député comme frais de carburant. Pour lui, ces frais constituent une corruption à l'instar des Jeep Palisade pour acheter la conscience des parlementaires. On écoute le député Ados Ndombassi.
Nous dénonçons avec la dernière énergie tous ces actes de corruption qui ont pris place au niveau de l'hémicycle. L'Assemblée nationale, qui devrait être le temple de la démocratie congolaise, est à ce jour le temple de la corruption. Après l'affaire des Jeep Palisade, que nous, députés nationaux, membres du parti ECID, avions dénoncé, nous retombons à ce jour dans un autre scandale financier, où chaque député, membre de l'Union sacrée, reçoit gracieusement une prime carburant de 1 000 dollars le mois. En calculant, nous avoisinons les 380 000 dollars le mois, soit 4 500 000 dollars l'an comme frais de corruption. Avons-nous en mémoire, en tant que députés, que 27 millions de Congolais sont en insécurité alimentaire, que des millions d'enfants étudient à même le sol en RDC? Nous entamons cette nouvelle session parlementaire par un achat de conscience des députés nationaux membres de l'Union sacrée.
Tous ces propos ont été recueillis par Michel Kifindangoy. Affaire Bukangalonzo, Matata Ponyo écrit à ses collègues sénateurs en marge de la rentrée parlementaire. Dans une correspondance leur adressée hier, il leur rappelle le refus par le président du bureau de la Chambre haute du Parlement d'appliquer la décision de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, arrêt selon lequel aucune juridiction d'ordre judiciaire ne peut le juger pour des faits commis à l'époque où il était Premier ministre. Tout en dénonçant cette violation flagrante de la loi fondamentale, Matata Ponyo demande aux sénateurs d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la plénière du Sénat. On écoute Augustin Matata Ponyo au micro de Noéla Luzitu.
J'ai adressé cette lettre aux sénatrices et aux sénateurs pour rappeler à leur meilleure attention la non-application de l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif au dossier Bukangalonzo. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de pouvoir me juger. Aucune juridiction d'ordre judiciaire ne peut me juger pour les actes que j'aurais éventuellement commis dans l'exercice de mes fonctions en tant que Premier ministre. Comme le président du Sénat a refusé l'application de l'arrêt de la Haute Cour, la seule voie, ce sont le représentant du peuple qu'il puisse soulever cette question en plénière du Sénat et qu'on sache si ce n'est pas le droit qui est appliqué, qu'on nous dise quel type de documents auxquels on se réfère pour violer la Constitution. Des millions de Congolais se posent deux questions. Pourquoi les sénatrices et les sénateurs restent indifférents à la violation manifeste de la Constitution et des lois de la République? Pourquoi les sénatrices et les sénateurs restent insensibles à une injustice aussi flagrante à l'endroit d'un de leurs collègues
ancien Premier ministre de surcroît. Monsieur Matata est un prisonnier politique à ciel ouvert.
Je vous le disais en titre, la MONUSCO a remis hier des kits de réinsertion aux ex-combattants à Calémie, des kits d'une valeur de 100 000 $ américains. L'activité de la section de désarmement, démobilisation et réintégration, DDR, vise à rendre autonomes 200 bénéficiaires, dont 80 femmes vulnérables, 80 jeunes à risque et 40 autres ex-combattants. Avant la remise des kits, les bénéficiaires ont suivi une formation professionnelle afin d'assurer une relance agricole et égalitaire aux besoins alimentaires et sensibiliser les jeunes à la culture de la non-violence. Ce projet est exécuté par le Centre socio-éducatif de l'Espérance de la Compagnie de Marie Notre-Dame. Reportage de François-Xavier Mibé.
Le Centre socio-éducatif l'Espérance CESEC de la Compagnie de Marie Notre-Dame a organisé une formation dans 4 filières. 200 bénéficiaires, dont 104 femmes et 96 hommes, ont suivi la formation les uns comme les autres en savonnerie, coupe et couture, coiffure et culture maraîchère. La coordinatrice du CESEC, la sœur Thérèse Singa.
De tous ces apprenants, ce que moi j'apprends, c'est donner un plus dans la société, un changement de comportement, que cette jeunesse soit aussi capable de contribuer à la société congolaise.
Le projet de la section de DR de la MONUSCO a été conçu en 2020. Le CESEC vient de l'exécuter en 2021 avec les financements de la MONUSCO fixés à 100 000 $américains. Le chef de bureau de la MONUSCO ad interim, Léonidas Nkinguié.
Nous voulons que les gens n'aillent pas faire foutre leurs habits à Karemi Centre, mais qu'ils viennent chez vous, parce que vous avez acquis l'expertise nécessaire.
La remise des certificats de participation à la formation a sanctionné la cérémonie sous le rythme de la danse et des cris de joie des bénéficiaires qui ont choisi de vivre autonome. Karemi, François Diabimbe, Radio Okapi.
Poursuivons notre série de reportages dans le secteur de l'élevage au Nord Kivu. Aujourd'hui, nous découvrons une unité modulaire de traitement et de transformation de lait. Il s'agit de la laiterie de Luonga, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Goma, territoire de Masisi. Une initiative de la Cogenoki avec le financement du FPI à hauteur de 800 000 $. C'est dans le cadre des 100 jours. Denise Lukeso nous l'a fait découvrir et nous parle de son importance sur la promotion de l'élevage.
L'unité modulaire de Luonga est la première usine ultramoderne en RDC. Elle est implantée dans les villages portant le même nom et est opérationnelle depuis 2020. Elle aide pour les traitements et transformations du lait. Cet ouvrage est bien équipé et conçu selon les normes modernes. Elle dispose, en plus d'autres matériels et équipements, d'une camionnette citerne d'une capacité de 5000 litres pour la collecte des laits auprès des éleveurs pour l'acheminer à la laiterie. L'implantation physique de cette unité, avec sa technologie de pointe, a créé une centaine d'emplois entrepreneuriaux chez les vendeurs du lait ainsi que les fournisseurs de lait dans cette région. Cette unité vient valoriser les laits et rendre l'activité de l'élevage économiquement rentable. Un autre atout de cet investissement est la mise sur le marché d'une gamme variée de produits laitiers de haute valeur nutritive qui remplissent les normes et standards de qualité et certifiés par l'Office congolais de contrôle. La laiterie de Luonga produit au moins 1000 fromages par mois destinés jusqu'ici que pour la consommation locale, car son exportation est soumise encore à des préalables. Goma, Denise Luque sur Radio Okapi.
Et nous poursuivons également la diffusion de la série de reportages entamée le lundi matin relative au volcan. Dans cette édition, Gabriel Ouamenia nous parle du système d'alerte mis en place dans la ville de Goma et ses environs en cas d'une éruption volcanique. Suivez.
Les volcans est une catastrophe naturelle. Nous devons vivre avec. Apprenons à vivre avec les volcans, c'est le slogan de l'OVG. Des messages qu'on peut lire sur les différents panneaux de surveillance affichés et implantés à travers la ville. Ces services utilisent un système d'alerte précoce pour communiquer et sensibiliser la population sur l'évolution du volcan. Il utilise comme outil des panneaux à 4 couleurs. Le vert qui signifie la situation est normale, le jaune qui veut dire la vigilance, orange, les dangers est imminent, et le rouge, le volcan est en éruption. Actuellement, les drapeaux affichent les jaunes, la vigilance donc est de mise. Et pour étendre ce système d'alerte précoce, la MONUSCO a doté ses services d'une sirène. Ce système d'alerte avait une capacité d'arroser au moins 8 km de rayon. Mais seulement, voilà, ce système n'est pas opérationnel depuis environ 5 ans maintenant. Il serait en panne, confirme Célestin Kassereka. Goma, Gabriel Wameya, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Au 20e jour de l'invasion de l'Ukraine, plusieurs quartiers du centre de Kiev, la capitale, ont été touchés par des frappes. La 4e session des pourparlers s'est achevée hier. Par ailleurs, un tribunal de Moscou a infligé hier une amende à une employée d'une chaîne de télévision russe. Cette dernière a fait irruption pendant le journal télévisé pro-Kremlin de lundi soir pour dénoncer l'offensive en Ukraine. Reconnue coupable d'avoir commis une infraction administrative, Marina Ovsyannikova devra payer une amende de 30 000 roubles, soit environ 250 euros. « Ma vie a beaucoup changé, c'est sûr. Je suis contente d'avoir exprimé ce que je pensais. Plus important, il y a maintenant une nouvelle tendance. D'autres journalistes suivent mon exemple », a déclaré la journaliste à l'issue de l'audience.
L'invité.
Une délégation des deux experts des Nations Unies sur la situation en RDC a effectué une visite officielle dans le pays du 1er au 15 mars 2022 dans le cadre du processus de la mise en marche de la justice transitionnelle. Avant de prendre son avion pour Genève ce mercredi, Bakr Wali Ndiaye, président de cette équipe d'experts, a fait le point de leur mission en RDC. L'une des leçons tirées de cette mission, selon le fonctionnaire de l'ONU, c'est qu'il est indispensable de briser le cycle des violations des droits de l'homme commises et des conflits entre des communautés souvent causés par l'exploitation et la dispute autour des ressources naturelles et la terre. Bakr Wali Ndiaye s'est prêté aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Bakr Wali Ndiaye, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez en mission de travail ici en RDC. Quel en était l'objectif?
Nous sommes venus ici dans le cadre du mandat qui a été élargi au mois d'octobre dernier à l'ensemble de la République démocratique du Congo, qui a été donné par le Conseil des droits de l'homme pour nous permettre d'assister la République démocratique du Congo et d'évaluer ses efforts dans deux directions, la lutte contre l'impunité et la mise en place d'une justice de transition. Nous avions commencé par le Kasaï, mais maintenant que c'est élargi à l'ensemble du Congo, nous avons commencé cette visite en nous rendant presque directement le 1er mars à Kalemi pour assister le 2 mars au lancement des consultations nationales qui vont être entreprise dans l'ensemble du territoire congolais pour que la population soit consultée sur quelle direction prendre sur la route de la réconciliation et de la réparation du tort des victimes et aussi de la poursuite des crimes abominables qui ont pu être commis. Donc nous avons commencé par Kalemi. Ensuite, nous nous sommes rendus à Bunia, dans l'Ituri, pour voir un peu comment, dans une province en état de siège, ces mêmes préoccupations pouvaient être tenues en compte. Est-ce que c'était l'urgence? Est-ce que c'était possible? Et si c'est possible, comment? Et la deuxième semaine, nous l'avons consacrée à rencontrer des autorités, aussi bien gouvernementales, non gouvernementales que diplomatiques, ici, à Kinshasa.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces rencontres avec ces différentes personnalités au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile et même au niveau des agences du système des Nations Unies? C'était ça votre agenda?
Tout à fait, et aussi des personnalités religieuses, des ONG. Et ce que nous avons pu retenir, c'est que il est absolument indispensable de briser le cercle des violations des droits de l'homme qui se passent et des conflits entre les communautés, souvent issus de l'exploitation des richesses naturelles ou des compétitions sur ces mêmes ressources, que ce soit la terre ou des minerais. Nous avons vu aussi que, quelle que soit la situation, il y avait un fort désir de faire des efforts sur l'un ou l'autre aspect de la justice de transition, puisque la justice de transition, c'est aussi se tolérer, se comprendre, dialoguer, réinsérer les combattants, c'est aussi prendre en compte le sort des victimes. Or, s'il y a des vieux conflits qui sont latents, qui sont brûlants, cela n'empêche pas que des efforts sont possibles pour s'occuper de l'urgence, et notamment des victimes et de l'effort de réconciliation.
Revenons un peu à la première semaine de votre visite. Vous étiez à Kalemi, vous étiez en Ituri, à Bunia notamment. Qu'est-ce que vous avez pu retenir des messages que vos différents interlocuteurs ont pu faire passer?
à Calémine, nous sommes rendus compte évidemment que le conflit entre Bantou et Toa, notamment, était un conflit extrêmement difficile, parce que profond, et parfois remontant à des préjugés de notre millénaire, je ne parle même pas de notre siècle. Et que donc, ce n'est pas facile de l'éradiquer en deux jours. Mais la volonté d'y parvenir est absolument importante et toute marche commence par un premier pas. Et c'est l'occasion de saluer la décision du ministre des Droits humains qui, après avoir écouté les communautés, a décidé d'inclure dans la délégation congolaise qui va se rendre le 28 mars au dialogue organisé par le Conseil des droits de l'homme sur la République démocratique du Congo. Il a donc décidé d'inclure une jeune étudiante, Toa, de nom de Anastasie Ngoy, si j'ai bonne mémoire, et qui va donc être membre de cette délégation pour, en quelque sorte, manifester le désir d'inclusion du gouvernement. Si on en vient à l'Ituri, nous avons ce même conflit entre essentiellement les communautés Hema et Lindou, mais ce ne sont pas les seules communautés. Mais d'autres nous diront que les autres communautés aussi ne sont pas en conflit. Donc, quelque part, là aussi, il y a une forte tension, si l'on veut, chacun étant à la fois victime et auteur, ne retient en fait que la victimisation et pas sa qualité d'auteur. Et il faudrait donc trouver les moyens d'engager un dialogue entre ces communautés. Et souvent, nous avons pensé que les confessions religieuses pouvaient jouer un rôle dans cela, et que ce soit des différentes églises chrétiennes, comme les autres religions, comme l'islam ou les religions traditionnelles.
Monsieur Bakréo Wali Ndiaye, merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.